Invité de la deuxième heure des matins du samedi, Stanislas Dehaene, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, spécialiste du cerveau, auteur d'ouvrages sur l'apprentissage du calcul comme la bosse des maths en 97, sur l'apprentissage de la lecture comme les neurones de la lecture, apprendre à lire, ou encore le dernier, le code de la conscience qui dresse une sorte de panorama de tous vos champs, vos travaux d'expérimentation et de recherche. Tiens, c'est vrai, on entendait cette promotion pour une émission qui aura lieu demain sur France Culture par Louise Touré. À quoi pourrait ressembler le bac idéal? C'est sans doute une des questions que vous allez vous poser au sein de vos nouvelles fonctions, puisque vous venez de prendre les fonctions de président du nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale que le ministre Jean-Michel Blanquer a présenté comme l'inspiration fondamentale de la politique éducative. C'est vrai, c'est une des questions que vous pourriez vous poser. À quoi ressemblerait le bac idéal?
Peut-être, et je crois que nous serons consultés là-dessus, mais je pense que l'approche scientifique est surtout pertinente pour les petites classes, pour l'instant en tout cas. Bien sûr, on peut expérimenter dans tous les domaines, et je pense que le conseil scientifique est là pour aider à mener de bonnes expérimentations, mais je ne sais pas si le bac fera l'objet d'une expérimentation. Je suppose qu'on sera obligé de basculer d'un seul coup dans un nouveau système, ce qui pose évidemment toujours des questions importantes. Je pense que dans le primaire, ce sera plus facile de pratiquer donc des interventions qu'on appelle contrôlées randomisées, hein, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à améliorer le système, à modifier le système, et bien faire en sorte que deux groupes d'enfants soient comparés, ceux qui bénéficient du maximum de ce qu'on sait faire actuellement, et puis ceux qui vont bénéficier en plus d'une intervention spécifique, et de vérifier si telle ou telle politique éducative marche effectivement comme on l'espère.
Le ministre a également ajouté qu'il est essentiel dans un pays moderne que les décisions éducatives soient éclairées par les sciences. Au-delà du pied de nez au président américain, dont vous avez parlé dans le journal tout à l'heure, être éclairé par les sciences, comment l'interprétez-vous, vous, le scientifique, Stanislas Dehaene?
Je pense que c'est un geste extrêmement fort, effectivement, de dire il faut des scientifiques, y compris à l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer avait déjà, en fait, créé un conseil scientifique lorsqu'il était à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc, c'était la préfiguration, ce conseil scientifique. Et l'idée, c'était de partager les connaissances que nous avons déjà, d'une part. Nous savons beaucoup de choses dans ce qu'on pourrait appeler les sciences de la connaissance, dans un sens très large, hein, sur la manière dont on apprend, la manière dont la mémoire fonctionne, la manière dont on peut optimiser son fonctionnement, la manière aussi dont les sociétés fonctionnent. Donc il y a un aspect de sociologie, comment faire pour que les enfants soient motivés à apprendre, travaillent ensemble, ne soient pas découragés. Et puis, le deuxième point, c'est lorsqu'on ne sait pas, eh bien, l'approche scientifique reste quand même la meilleure manière de découvrir la vérité. Et là encore, je pense que c'est un geste très fort de dire nous voulons que les scientifiques nous aident à trouver les bonnes orientations. Nous ne savons pas tout, loin de là, mais la méthode scientifique nous permet de poser les questions, d'essayer de les poser de la bonne manière, avec notamment des économistes comme Esther Duflo, qui fait partie du conseil scientifique, savoir donc proposer un plan expérimental qui permettra d'avoir des réponses. Est-ce que c'est vraiment bien d'organiser la classe de telle ou telle manière, par exemple de la diviser en deux, vous voyez, et d'avoir
là c'est vos compétences de ou votre formation de mathématicien qui ressort. Est-ce qu'il faut mieux la diviser en 4, en 2, en 6 ou ça va plus loin que ça, Stanislas Dehaene?
Il s'agit vraiment de questions complexes. Ça, je vais insister là-dessus. Hein. On est parfois en science accusé de réductionnisme.
Ça n'a pas manqué depuis votre nomination.
Ça n'a pas manqué. Le réductionnisme est en réalité une méthodologie nécessaire pour essayer de comprendre un système complexe. On est obligé d'essayer de poser une question à la fois, sinon on n'obtient jamais la réponse. Mais on est tout à fait conscient que l'éducation nationale est un système très complexe. On parle d'un million d'employés, hein, c'est absolument extraordinaire. Et donc l'idée de dire toutes ces personnes vont essayer de trouver un éclairage scientifique me paraît, moi, extrêmement porteuse. Je suis très enthousiaste pour cette nouvelle mission.
On l'entend, Stanislas Dehaene, mais comme vous avez parlé de cette crainte de réductionnisme scientiste qui a entouré votre nomination et le fait que quelques 8 ou 9 même personnes qui travaillent dans les sciences cognitives comme vous entrent dans ce conseil aux côtés d'autres disciplines, bien entendu c'est transdisciplinaire, c'est multidisciplinaire, mais il y a quand même 9 personnes qui travaillent sur les sciences cognitives et donc ça n'a pas manqué ces inquiétudes. Elles ont été en partie levées par vos réponses. Malgré tout, il en reste une sur laquelle on pourrait travailler un tout petit peu plus. La peur du scientisme n'est pas fondée, dites-vous, et en même temps, quid du facteur humain et social? Ça n'est pas seulement parce que vous avez Esther Duflo qui est une économiste ou un philosophe que vous allez sans doute lever ces craintes. Que pourriez-vous dire sur la complémentarité des sciences cognitives par rapport aux à la sociologie ou aux sciences de l'éducation?
Donc le premier point, c'est que nous avons en réalité beaucoup de représentants des sciences de l'éducation dans ce conseil scientifique. C'est toujours très difficile d'étiqueter les gens. Il y a 21 scientifiques dans ce conseil. Certains sont philosophes et font des sciences cognitives. Certains viennent des sciences de l'éducation et font des sciences cognitives. D'autres ne font pas de sciences cognitives mais font de l'économie, des mathématiques, de l'informatique. Donc je pense que il ne faut pas réduire les personnes à des étiquettes comme ça, essayer de les mettre dans des cases. Ce sont tous de très brillants scientifiques qui sont d'accord pour réfléchir sur des questions difficiles. Maintenant sur cette question donc du scientisme, écoutez, je pense qu'il faut il y a un peu de dualisme aussi derrière votre question. Même les aspects sociaux sont évidemment représentés dans notre cerveau. Il n'y a pas d'opposition entre le cerveau et la société. Notre cerveau comprend des régions qu'on appelle le cerveau social, qui doivent absolument se développer chez l'enfant et qui permettent de représenter les autres. Et c'est intéressant, ce sont les mêmes régions du cerveau qui servent à représenter les autres et à se représenter soi-même. Voyez, donc l'image de soi est aussi en partie l'image de soi par rapport aux autres. Alors c'est un domaine dans lequel on peut travailler, y compris avec les méthodes des sciences cognitives et celles des neurosciences. Il y a tout un continuum de recherche là-dessus.
Et pourtant, vous tenez, Stanislas Dehaene, vous et Jean-Michel Blanquer, à ne pas justement être réduit vous-même aux neurosciences, à parler des sciences cognitives. Vous êtes, vous, professeur de psychologie cognitive expérimentale. La psychologie, mais justement, c'est quand même l'étude du comportement du cerveau, mais c'est l'étude aussi du comportement humain dans son environnement. Donc on ne peut sans doute pas vous reprocher de ne pas jouer du facteur social et humain.
Absolument, et pour moi, je ne fais pas directement des neurosciences, j'utilise des outils de neurosciences pour poser des questions de psychologie. Donc vous savez, mon laboratoire se trouve à Neurospin, qui est un très grand centre d'imagerie cérébrale, on dispose de moyens vraiment exceptionnels, une panoplie de machines pour regarder le cerveau, mais on utilise ces machines pour poser des questions d'organisation psychologique. Quelle est l'architecture des représentations mentales, dans quel ordre elles sont activées, comment fonctionne la lecture, par exemple, c'est une des grandes questions qu'on a posées. Comment fonctionne le langage parlé? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans le cerveau humain par rapport à d'autres espèces? Mais ça veut dire pas seulement qu'est-ce qu'il y a d'unique comme type de neurone ou type de connexion, mais qu'est-ce qu'il y a d'unique comme faculté? Qu'est-ce qui fait que la faculté de langage a émergé dans l'espèce humaine? Donc pour moi, la psychologie s'est profondément transformée et a besoin maintenant de ces méthodes d'accès au cerveau.
Est-ce que précisément l'idée, c'est de changer toute la méthode d'apprentissage à l'école? Est-ce que tout est à repenser, Stanislas Dehaene, de la lecture, du calcul ou de ces matières et valeurs fondamentales de l'école, ou simplement par petites couches de façon homéopathique?
Je pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Je pense pas qu'on va tout bouleverser. Il y a déjà énormément de choses qui marchent. En réalité, il y a une diversité d'approches absolument exceptionnelle dans l'éducation nationale. Et il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Et puis, je pense pas non plus que l'approche homéopathique soit suffisante pour intervenir. Non, il va falloir d'abord mettre en œuvre ce qu'on sait fonctionner et ensuite expérimenter pour trouver des nouvelles solutions.
Voilà. Vous avez déjà, défini des domaines de priorité, la formation des enseignants, les manuels scolaires, l'évaluation des élèves, le handicap et la métacognition. Vous pourriez nous en dire quelques mots de ces domaines ?
Oui, alors par exemple, si on prend le domaine de l'évaluation et de l'intervention, ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous savez que ça fait longtemps que l'éducation nationale a des batteries de tests et fait passer parfois toute une génération d'enfants des tests, par exemple, en début de CP. Nous pensons d'abord que ces tests peuvent être améliorés et que la fonction de ces tests demande à être mieux définie et pourrait être extrêmement utile pour les enfants. Donc nous avons commencé à travailler là-dessus pour que ces tests soient strictement centrés sur l'intérêt de l'enfant. Donc pourquoi est-ce qu'on fait passer ces tests? Ça n'est pas pour mesurer la performance du système scolaire, ça n'est pas pour mesurer la performance de tel ou tel enseignant, c'est pour mesurer les capacités à un instant donné d'un enfant. Et alors en début de CP, essayer de mesurer des facteurs de risque, si on peut dire. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs, par exemple la maîtrise des phonèmes de la langue française, si elle n'est pas bien en place à la fin de la grande section de maternelle, c'est un facteur de risque, au même titre d'ailleurs que la maîtrise du vocabulaire de la langue française, pour l'apprentissage de la lecture.
On est capable de reconnaître déjà les enfants qui peuvent avoir des difficultés.
Qui pourraient avoir des difficultés. Alors l'idée, c'est on les reconnaît, on alerte l'enseignant, on mesure, on fait une deuxième mesure, ça fait des mesures très courtes, un jeu qui vous permet de voir où en est l'enfant dans le domaine de la lecture, par exemple. Et on fait une deuxième mesure en janvier. On dit, ah oui, bah, pas de problème, l'enfant a progressé tout à fait normalement, il a rattrapé son retard, l'école fonctionne, pas de problème. Mais non, peut-être dans une autre classe, un autre enfant, celui-là, il n'a pas progressé. Alors là, on va utiliser une approche qui s'appelle réponse à l'intervention, c'est-à-dire qu'on va être capable de donner aux enseignants des outils pour dire, vous voyez, cet enfant-là, vous devriez renforcer tel ou tel aspect de l'enseignement de la lecture. Et donner un signal d'alerte donc, qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que ce qui peut se faire avec les enquêtes internationales. Lorsque vous avez une grande enquête PISA ou PIRLS, on a vu récemment, ce sont des enquêtes qui viennent 5, 10 ans après les facteurs qui ont déterminé le succès des enfants. Alors, on veut raccourcir ce cycle et l'individualiser.
Précisément, Stanislas Dehaene, vous parlez de l'enquête PISA. Les enquêtes PISA, on en entend parler assez régulièrement. Elles montrent que la France décroche. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a quand même été mis en place pour améliorer les performances de notre système scolaire. L'intérêt de l'enfant, c'est une chose, mais les performances de notre système scolaire, manifestement, c'est aussi important. L'enquête PIRLS dont vous parlez, elle est un peu moins connue. Et pourtant, on en a entendu parler tout récemment, elle est sortie juste à la fin de l'année dernière. Vous êtes précisément spécialiste des processus d'apprentissage de la lecture. Or, selon cette dernière enquête internationale, les compétences en lecture et en compréhension des écoliers français en classe de CM1 sont en baisse depuis une quinzaine d'années. Pour le dire assez clairement, ils déchiffrent nos enfants, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas le sens. Est-ce que les sciences cognitives peuvent quelque chose à cela ?
Je pense que oui, même si c'est vrai que c'est plus facile pour les sciences cognitives d'analyser des activités automatiques comme le déchiffrage, et la question du sens reste une question un peu ouverte au niveau cérébral. Qu'est-ce que c'est que le sens d'un mot ? Quel type d'assemblée de neurones code pour le sens d'un mot ? Ce ne sont pas des questions encore bien comprises. Mais sur le plan par contre des sciences de l'éducation, il y a des travaux tout à fait remarquables, et par exemple Maryse Bianco, qui est à Grenoble, fait partie du conseil scientifique et nous éclairera sur ce qui se passe lorsque un enfant ne comprend pas une phrase ou ne comprend pas un mot. Et on peut évidemment avoir des exercices qui travaillent là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre déchiffrage et compréhension. On ne peut pas comprendre un texte si on n'est pas capable de le déchiffrer. Une fois qu'on l'a déchiffré, bien sûr, ça ne suffit pas. Et il faut encore reconnaître sur le plan de la mémoire auditive de quel mot il s'agit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces deux facteurs tellement importants. La capacité de passer des graphèmes aux phonèmes et le vocabulaire. Vocabulaire oral dont disposent les enfants. Alors il faut travailler les deux, bien sûr, mais la partie compréhension, on peut la travailler à l'oral et on peut la travailler dès la maternelle. Et je pense que c'est une des recommandations qui sera faite dans la formation des enseignants, c'est que la maternelle joue un rôle absolument fondamental dans l'éveil au vocabulaire de la langue française et que peut-être on peut pratiquer des jeux, des exercices qui renforcent ce vocabulaire qui est vraiment un facteur extrêmement important pour la suite de la lecture.
Est-ce que vous pensez, Stanislas Dehaene, que les difficultés des enfants de milieux défavorisés viennent du fait qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement adapté. Et que de cette façon-là, les sciences cognitives et vos collègues au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale pourraient participer, contribuer à rétablir un certain nombre d'inégalités.
Alors la question des inégalités est absolument cruciale dans cette affaire, parce que il y a quand même un scandale français, nous sommes l'un des pays développés qui a le pire succès, la moins bonne réussite dans le domaine de l'intégration des enfants issus de familles défavorisées à l'école. Et on ne sait pas très bien pourquoi les enfants de familles défavorisées ont des scores nettement diminués, mais on pense qu'un des facteurs, c'est ce que font les parents avec leurs enfants. Vous voyez, est-ce qu'il y a des jeux dans la famille, est-ce qu'il y a un goût pour la lecture ? C'est extrêmement important, c'est un des facteurs prédictifs de réussite en lecture, la présence de livres et la valorisation du livre dans l'environnement de l'enfant. Est-ce qu'on lui lit des histoires le soir ? Est-ce qu'on lui parle tout simplement ? Moi je vois parfois dans le RER des gens qui sont sur leur téléphone portable pendant une demi-heure alors que l'enfant ne fait absolument rien, il regarde par la fenêtre, vous voyez, parler à son enfant. Donc toutes ces activités, et en particulier le jeu, sont extrêmement importantes.
Le jeu, j'y ai eu. La dimension ludique.
Ah oui, absolument, la dimension ludique, oui. Donc, des jeux extrêmement simples, vous voyez. On a montré, par exemple, que jouer avec des jeux de plateau, type petits chevaux, où vous jetez un dé, vous avancez, eh bien, ça va créer une révolution mentale dans la représentation du nombre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Au départ, les petits-enfants ne comprennent pas que tous les nombres sont également espacés. Si vous leur demandez est-ce que 8 ressemble à 9, ils disent oui, c'est presque la même chose, 8 et 9. Et 1, est-ce que 1 ressemble à 2? Ah Ah ben non, c'est très différent, un et deux. Et ils n'ont pas cette notion qu'il y a le même espace entre les nombres. Il faut faire plus un pour passer de 1 à 2 et la même opération plus 1 pour passer de 9 à 10, de 8 à 9. Alors cette notion d'une linéarité de l'espace des nombres, c'est un bouleversement mental qui va se produire très naturellement si vous avez des activités de jeu de plateau ou si vous avez des activités de mesure ou des activités de jeu de construction qui sont pratiquées dans la famille. Moi je voudrais donc beaucoup que la famille devienne vraiment le troisième pilier, l'enfant, l'enseignant, la famille, pour pouvoir développer un écosystème dans lequel on apprend, je disais, 7 jours sur 7. Le cerveau apprend 7 jours sur 7.
Restez avec nous, il est 8h31 sur France Culture. Stanislas Dehaene, on vous retrouve d'ici quelques petites minutes, juste après la revue de la semaine de Mélanie Chalandon.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Une revue de la semaine, Mélanie, bonjour à vous.
Bonjour.
Qui a été largement marquée par les termes de féminisme, de sexualité, de harcèlement. Ça a enflammé la presse toute la semaine.
Alors, on va reprendre le fil pour ceux qui auraient manqué le début. Tout commence lundi avec cette tribune publiée dans les pages Débat du Monde, signée par une centaine de femmes qui attaquent de plein fouet le mouvement de libération de la parole enclenché depuis l'affaire Weinstein. Tout en reconnaissant qu'une prise de conscience était nécessaire, elles en dénoncent ce qu'elles appellent les excès, les dérives et un féminisme, je cite, qui prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité, comme si, à leurs yeux, la libération de la parole devait se payer au prix de la liberté sexuelle. Elles défendent donc ce qu'elles appellent une liberté d'importuner. Ce qu'on lit dans cette tribune, c'est aussi un refus catégorique du statut de victime. Alors, dès le lendemain, mardi, sur France Info, réaction effarée de Caroline de Haas et d'une trentaine de militantes féministes qui répondent point par point « Non, le hashtag balance ton porc ne va pas trop loin. Non, ce n'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Non, les féministes ne sont pas des mal baisés. Et oui, les femmes sont des victimes de harcèlement, d'agression, de viol en France chaque jour. Alors depuis, le débat est lancé. Toute la semaine, les tribunes et les prises de parole vont s'enchaîner. Hier, dans Le Monde, à nouveau, l'historienne Michèle Perrot revenait sur cette question extrêmement sensible de la victimisation. Elle ne voit pas en quoi la protestation ferait des femmes les éternelles victimes, puisqu'au contraire, dire non, c'est s'affirmer comme individu libre. Alors à celles qui ont jeté le pavé dans la mare, Michèle Perrot leur oppose leur manque de solidarité. À lire aussi la tribune de Leïla Slimani dans Libération ce matin. « Je ne suis pas une petite chose fragile », écrit-elle. « Prendre le métro le soir, mettre une mini-jupe, me maquiller comme un camion volé, draguer un homme, réclamer une augmentation. L'écrivaine réclame le droit à la sécurité et au respect, tout simplement. »
Ce qui émerge dans le débat à nouveau, c'est la question du corps, mais aussi celle du désir.
« Nous serons libres quand nous pourrons exprimer notre désir, affirmait l'écrivaine Belinda Cannon dans Le Monde mercredi. Je la cite. Autant il me paraît capital de dénoncer le lien du pouvoir et du sexe qui a privé les femmes de la maîtrise de leur propre corps, autant il faut combattre la morale désuète qui a toujours cherché à réfréner les désordres de la sexualité. Tout le monde, affirme-t-elle, gagnerait une réelle égalité dans l'érotisme. Alors, peut-on désirer sans dominer? C'est aussi la question que pose Philosophie Magazine dans un dossier coordonné par la sociologue franco-israélienne Eva Illouz. Le problème, explique-t-elle, c'est qu'on a libéré la sexualité sans toucher au pouvoir économique et social des hommes. Cela revient à placer de facto les femmes dans une vulnérabilité structurelle, explique-t-elle. De ce point de vue, elles sont en fait les grandes perdantes de la révolution sexuelle.
Enfin, dans la presse cette semaine, un nouveau venu. Hebdo, sans H. On en parlait dans la Fabrique médiatique en septembre. Ça y est, il est dans les kiosques.
Lisez-nous, lisez-vous. Bienvenue chez vous. C'est le slogan de Hebdo, un nouveau magazine aux nombreux paris. Celui du papier, celui de l'absence de pub et celui de l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est quoi? Expliquer clairement, raconter des histoires vécues, adopter un vocabulaire et des références utilisées par tout un chacun, peut-on lire dans l'édito. Une formule qui n'a pas convaincu la profession, relevait Libération hier. Sans doute parce que le public urbain surinformé, maîtrisant pleinement les rites et les codes de la presse, n'est pas la cible première d'Hebdo. Et peut-être sommes-nous aveuglés par notre snobisme, se demande Libération. Alors que peut-on lire dans Hebdo? Eh bien, une enquête intéressante sur la SNCF et des révélations sur son manque de transparence, notamment dans les cas d'accidents ferroviaires, des sujets, vie quotidienne aussi, et puis des textes envoyés par les futurs lecteurs. Hebdo est simple, direct. Pas de pause, pas de posture, explique Patrick de Saint-Exupéry, l'un de ses fondateurs, qui rappelle aussi, il est parfois plus facile d'être classe que d'être simple.
Merci Mélanie. Et on retrouve notre invité Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale et président du nouveau conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous travaillez cette année dans votre cours au Collège de France sur la singularité de l'espèce humaine, Stanislas Dehaene. On sait aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas il y a 20 ans.
Bien sûr, on a beaucoup progressé dans la compréhension des réseaux cérébraux du langage et dans la compréhension de leurs origines. On s'aperçoit qu'il y a dans le cerveau humain des aires cérébrales qui sont très spécialisées pour le traitement du langage parlé. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ces régions sont déjà là pratiquement dès le départ. On a été capable de faire de l'imagerie cérébrale des bébés de 2 mois. Et à 2 mois, vous voyez déjà ce réseau s'allumer lorsqu'un petit enfant entend sa langue. D'ailleurs, on sait que dès la naissance, il a une préférence pour sa langue maternelle, donc il a déjà commencé à la traiter in utero. Donc vous voyez, ou alors peut-être dans les toutes premières heures de vie, on voit qu'il y a des réseaux qui ont vraiment une appétence particulière pour le langage. On est vraiment une espèce qui est, d'une certaine manière, préorganisée pour apprendre extrêmement rapidement un langage.
Vous dites aussi que l'humain est le seul être vivant capable de se représenter l'esprit d'autrui. Or, selon une dernière information qui nous viendrait du Japon, des scientifiques de l'université de Kyoto ont créé une intelligence artificielle capable de lire les ondes cérébrales d'un individu et de produire une image à partir de ce qu'il regarde. Franchement, parfois, on a de quoi avoir un peu peur. Vous pourriez nous dire que c'est au contraire extrêmement prometteur comme découverte. Mais c'est vrai qu'on a envie de freiner de temps en temps.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la science avance assez vite. Oui, ce qu'ont fait ces scientifiques de Tokyo, c'est la suite d'ailleurs de travaux qui avaient déjà commencé il y a quelques années, c'est de regarder dans les aires visuelles du cerveau. Et on sait que ces aires visuelles sont organisées de façon topologique. Donc vous avez des régions qui s'intéressent à la couleur, des régions qui s'intéressent au visage, au lieu que vous connaissez. Et elles ont aussi une certaine topologie de la rétine. Donc ce qui est à droite, ce qui est à gauche de votre rétine n'est pas au même endroit dans le cerveau. Donc on peut utiliser toutes ces informations pour en quelque sorte peindre un tableau à partir de l'activation cérébrale par petites touches en disant il doit y avoir un visage, il est plutôt à droite, c'est plutôt rouge, voilà. Et c'est exactement ce qu'on fait scientifique. Alors on arrive à une image qui est donc peinte à partir de l'activité du cerveau et qui ressemble un petit peu, c'est loin d'être parfait, mais à ce que la personne a effectivement vu.
Est-ce que ce type de découverte pourrait servir à l'école ?
À l'école, je ne crois pas, très honnêtement.
Aux enseignants ou aux enfants, parce que vous allez apprendre à apprendre aux écoliers, mais aussi à la formation des enseignants.
Non, ce type de découverte va être utile, et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il va être extrêmement utile pour des personnes qui sont tétraplégiques, qui sont locked in, qui sont plus capables de communiquer.
C'est l'un des domaines de priorité du conseil, le handicap aussi à l'école.
Oui, mais pas... On parle vraiment de domaines cliniques, qui sont extrêmement graves d'ailleurs, de personnes qui sont assez rares, fort heureusement, mais qui ne peuvent plus du tout communiquer. Et je suis persuadé que très rapidement, on va avoir des outils pour communiquer plus directement par le biais de la pensée. Ça commence déjà. Mais non, là, l'école, à mon avis, on est très très loin de ça. D'ailleurs, je le disais, il ne faut pas y avoir de fantasmes sur les neurosciences à l'école. On apprend des choses
beaucoup,
sur le cerveau avec les neurosciences, mais jamais on va scanner des dizaines d'enfants à l'école. Et ce ne sera pas... si on le fait, ce sera pour vraiment des buts expérimentaux, mais pas du tout pour, je dirais, dans une situation de routine. Faire progresser les enfants. Non, je pense que c'est la psychologie, comme on le disait tout à l'heure, qui va être utile ici. C'est-à-dire la capacité qu'on a de mesurer finement les comportements et de voir s'ils progressent ou pas. Voilà.
Vous aurez les moyens de vos tests expérimentation.
Absolument. On a découvert quand même qu'il y a des relais très importants au sein de l'éducation nationale et notamment, évidemment, la Direction Générale d'Enseignement Scolaire et un département qui s'appelle la DEP, le département d'évaluation des programmes, qui comprend de très brillants statisticiens qui ont d'ores et déjà énormément de données sur le système scolaire français et qui vont travailler très étroitement avec les chercheurs et notamment ceux du Conseil scientifique pour qu'on réfléchisse ensemble à la meilleure manière d'utiliser ces données et d'en générer de nouvelles qui seront des indicateurs de ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Comment ça va s'organiser, ce conseil scientifique ? Quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, on a mis en place plusieurs sous-groupes. Et donc, on en a parlé, cette question de l'évaluation des enfants. La question de la formation est extrêmement importante. Les enseignants sont extrêmement demandeurs, en fait, de sciences cognitives. Ils voudraient savoir plus, ils se rendent compte qu'il y a des astuces efficaces qui ont été découvertes pour que les enfants apprennent mieux. Et donc, on va essayer de mettre à leur disposition des écrits, bien sûr, des outils pédagogiques, d'ailleurs, souvent ils ont déjà dans un site.
L'idée, c'est de les épauler.
Oui, les épauler. Et puis de leur donner peut-être un cours en ligne qui pourrait être suivi. Parce que la question de la formation continue est absolument essentielle. Je vous disais, il y a plusieurs centaines de milliers d'enseignants. Donc il faudrait qu'ils puissent continuer à se former tout au long de leur carrière. Et un cours en ligne sera peut-être la bonne manière.
Stanislas Dehaene, restez avec nous. Il est 8h41 sur France Culture. Juste avant l'idée culture, on voulait vous faire entendre une voix qui s'est éteinte hier. C'est celle de l'historien des idées, Daniel Lindenberg.
Je suis historien des idées. Je m'essaye un peu tous les ans, ça Hugues Jalon le sait, pour une maison qui nous est commune, une maison d'édition, à scruter un peu l'année politico-intellectuelle. Donc c'est né un peu de ça, d'une observation, c'est pas tombé comme ça. C'est, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décennie qui a suivi la chute du mur de Berlin et dont on a dit au début, c'est la grande conversion. Enfin, les intellectuels français, maintenant, ils ont tourné le dos à leurs vieux démons, ils sont convertis à la démocratie, aux droits de l'homme, au marché. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, depuis 2-3 ans, j'avais une petite inquiétude sur la véracité de cette chose-là.
La voix de Daniel Lindenberg, historien des idées et professeur de sciences politiques au micro de Sylvain Bourmeau. À la suite, dans les idées sur France Culture, c'était en 2002. Nous sommes au téléphone avec Jean Birnbaum. Bonjour Jean.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du Monde des Livres. Vous avez connu, lu Daniel Lindenberg. Ce livre dont il parlait en 2002 au micro de Sylvain Bourmeau, c'est le livre par lequel Daniel Lindenberg a été connu du grand public. Le rappel à l'ordre, une bombe éditoriale, écrivez-vous dans l'article qui lui rend hommage dans le Monde des Livres.
Mais oui, parce que c'était effectivement, ça a été une bombe éditoriale. Il y avait eu des papiers partout dans toute la presse. Évidemment, France Culture en avait beaucoup parlé aussi. Le Monde avait été jusqu'à lui consacrer sa manchette, ce qui était extrêmement rare, ce qui reste extrêmement rare pour un livre. Et c'était un livre qui s'appelait donc Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires, et dans lequel Daniel Lindenberg soulignait comme ça ce qu'il considérait être le basculement à droite de tout un tas d'intellectuels étiquetés de gauche. Et comme il le disait à l'instant, et on a entendu sa voix, c'était assez émouvant. Il disait voilà. Je pensais qu'on pensait tous que beaucoup d'intellectuels étaient gagnés à la démocratie, aux droits de l'homme, etc. Et en fait, c'était pas le cas. En fait, Daniel Lindenberg a effectivement souligné dans un livre qui était à la fois petit, c'était sa force, ça lui a permis d'avoir une énorme force de frappe, un énorme impact. En même temps, il était obligé d'aller un peu vite, il était un peu parfois hasardeux, donc il a pris beaucoup de coups parce que c'était assez facile de montrer les limites de ce texte. Mais il a montré comme ça comment tout un tas d'intellectuels qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs sur le devant de la scène, ici. C'était des écrivains, des philosophes, c'était Michel Houellebecq, c'était Dantec, c'était Finkielkraut, c'était Pierre Manant, Marcel Gauchet, Pierre-André Taguieff aussi. Ils parlaient de ce qu'ils nommaient leur libido réactionnaire et ils montraient comment tous ces intellectuels en étaient venus peu à peu, alors qu'ils avaient été formés à gauche, étiquetés de gauche, en étaient venus à critiquer de plus en plus violemment les droits de l'homme, la culture de masse, la démocratie en tant que telle. Et donc ça a suscité une violence dont on n'a pas vraiment idée aujourd'hui. Mais en même temps, qui finalement, avec le recul, on se dit que le livre a été, comme je disais, un peu hasardeux, allait un peu vite parfois en besogne, et en même temps que donc il avait commencé à baliser, à donner quelques repères pour un champ de bataille qui est encore largement le nôtre.
Un livre qui avait été édité par le professeur au Collège de France, donc collègue de notre invité du jour, Stanislas Dehaene, par l'historien Pierre Rosanvallon, dans sa collection La République des idées au Seuil, alors même que Daniel Lindenberg, à l'époque, était conseiller à la direction de la revue Esprit, qu'il avait beaucoup occupé. Hein, il était aussi professeur à l'université Paris 8, Vincennes. Et vous dites, Jean-Birnbaum, qu'il a toujours eu un engagement à gauche, même s'il a toujours travaillé les mondes intellectuels souterrains, et qu'il était d'une génération marquée par l'avant et l'après mai 68. Malheureusement, il n'aura donc pas vécu suffisamment pour voir cette année de commémoration de mai 68, marquée donc par cet avant et cet après.
Oui, et puis ce moment qu'on a appelé antitotalitaire, parce que vous avez rappelé le nom de Pierre Rosanvallon, j'ai parlé avant de Pierre Manant, de Marcel Gauchet, il y avait François Furet qui était pas loin dans la mémoire de tout le monde. En fait, c'était une querelle d'autant plus violente et qui reste encore aujourd'hui d'autant plus vive que ça reste et ça a été une querelle de famille. Tout ça, c'était des gens qui avaient travaillé ensemble, qui s'étaient regroupés dans ce qu'on a appelé la famille antitotalitaire, dans laquelle la revue Esprit avait joué un grand rôle. Il y avait eu cette formule de la revue Esprit qui avait dit, je me souviens, c'était l'imposture totalitaire a fini par éclater. Cette formule était restée. Donc il y avait Esprit, il y avait Commentaires, il y avait Le Débat, tout un tas de revues, le Centre Raymond Aron à l'école d'études en sciences sociales. Tous ces gens-là se connaissaient très bien. C'était tous regroupés dans cette famille qui était en soutien aux dissidents soviétiques, qui luttaient contre le stalinisme et qui, pour cela, avait beaucoup redécouvert toute une école philosophique dite de la pensée libérale, notamment Tocqueville. Et puis après la chute du mur de Berlin, et en fait, tout ça a explosé. Cette famille antitotalitaire avait besoin de, finalement, avait perdu son ennemi principal. Et donc, les uns et les autres se sont un peu dispersés. Et certains ont commencé à trouver qu'il y avait une nouvelle ligne de front qui se dessinait. C'était plus les démocrates face aux totalitaires, mais à l'intérieur des démocrates, il y avait tout un tas de nouvelles dissidences et de nouveaux conflits. Il avait marqué, de ce point de vue, hein, quelque chose que nous vivons encore.
Et il a étendu ses réflexions avec un livre en 2009, publié également au Seuil, Le Procès des Lumières, essai sur la mondialisation des idées. Merci Jean-Bien de Baume d'avoir témoigné sur Daniel Lindenberg. On peut écouter, réécouter cette suite dans les idées de Sylvain Bourmeau en 2002 sur le site franceculture.fr qui poursuit cet hommage à l'historien des idées Daniel Lindenberg. Et il est 8h46, presque 47, c'est l'heure de l'idée culture. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie, Stanislas Dehaene, son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Mélanie Chalandon, la parole est à vous.
Eh bien, ce matin, c'est Corinne Peluchon. Corinne Peluchon, philosophe qui travaille sur l'éthique, la condition animale, l'écologie. Son dernier ouvrage vient de paraître, Éthique de la considération aux éditions du Seuil. Alors, son choix culture, eh bien, je l'ai découvert dans un papier plié en quatre, un peu jauni, tapé à la machine.
Bien, je vais vous parler d'un poème de Rilke qui s'intitule La Panthère, Der Panther, que j'ai découvert quand j'étais au lycée. C'est le professeur d'allemand qui nous le faisait travailler à l'époque où en allemand on faisait de la poésie. Et je lui dois beaucoup pour cela. Et donc moi, et là d'ailleurs vous avez sous les yeux le papier qui date du lycée, je crois, puisque je l'ai inséré dans le recueil de poèmes en allemand. C'est un poème qui m'a accompagnée, je dirais, de mes 16-17 ans jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quand même quelques décennies. Et il me touche beaucoup parce que c'est Rilke qui visite le Jardin des Plantes au début du XXe siècle et qui voit une panthère, et il y en a encore, qui est enfermée dans cet endroit exigu. Et le Jardin des Plantes, comme vous le savez, c'est un zoo particulier parce qu'on ne peut pas non plus agrandir les cages. Et cette panthère, eh bien, son regard se fatigue à toujours voir seulement les barreaux. Et il y a un passage très beau où il dit « Der weiche Gang geschmeidig, starke Schritte ». Der sich in aller kleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. La marche douce des pas flexibles et forts qui tournent dans le cercle le plus exigu semble être une danse de force autour d'un centre où dort dans la torpeur un immense vouloir. On voit cet être qui a besoin de se dépenser, hein. Une panthère qui est frustrée de tout, et à la fin, il parle du rideau de la pupille qui de temps en temps se lève, mais il y a une image qui pénètre et qui cesse d'exister dans le cœur. Et donc il y a vraiment cette misère de la panthère. Et moi, quand j'étais un tout petit peu plus âgée, hein, puisque ce texte j'ai découvert à 16-17 ans, à 20 ans, donc quand je suis arrivée à Paris, j'ai visité le Jardin des Plantes, et je me rappelle très bien, il y avait des personnes qui souriaient de voir ou tel animal enfermé, tout ça. Et moi, je me rappelle, j'étais pas encore végétarienne, j'étais pas encore végane, n'était pas encore celle que je suis devenue, c'est-à-dire quelqu'un dont un des axes principaux de son existence, c'est la cause animale. Eh bien, je n'étais pas encore comme cela, mais ça m'avait beaucoup marqué d'abord de voir cette souffrance-là, ce que j'avais perçu, et de voir l'indifférence des personnes qui, finalement, baladent leurs enfants, leur montrent ces animaux dont la beauté leur est fatale, puisque c'est parce qu'ils sont si beaux qu'ils sont enfermés. Et voilà, et je crois que j'ai pas changé sur cela. Je me suis même aggravée, si je puis dire. Ce qui me touche beaucoup dans ce poème, c'est que Rilke fait sentir que tout se passe dans le corps. Et le rapport aux animaux, il est au niveau du sentir. Voilà. Donc, et il y a dans ce texte-là, bon, Rilke n'est pas un animaliste, hein, mais on sent qu'il a de l'empathie, il a de la compassion. Et que il y a l'idée d'une injustice, quoi. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Donc son regard, en s'attachant au barreau, hein, éternellement, s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien et il ne lui semble voir que 1000 barreaux et derrière ces 1000 barreaux, aucun monde.
Si vous deviez associer une émotion à ce poème, ce serait laquelle ?
L'indignation, mais aussi la honte et aussi la résolution de tout faire pour convaincre mes contemporains de mettre fin à la captivité des animaux sauvages, au moins cela.
Alors Corinne Peluchon sera l'une des invitées du Forum France Culture qui se tient aujourd'hui à partir de 10h et jusqu'à 16h30 à la Sorbonne à Paris sur le thème animal, point d'interrogation. Un thème pour 4 débats, c'est la nouvelle formule des forums. Alors de nombreuses questions, les animaux sont-ils des humains comme les autres? Depuis quand défend-on les animaux à la recherche des émotions animales? Et tout l'ensemble des contributions sera retrouvé à l'antenne sur France Culture dans une journée spéciale le 19 janvier.
Précisément aussi un thème pour vous, Stanislas Dehaene, puisque c'est l'objet de votre année de cours au Collège de France, la singularité de l'espèce humaine. Lundi prochain au Collège de France, vous ferez un cours sur la communication animale et ses limites.
Oui, et puis dans mon livre Le Code de la Conscience, je parle beaucoup de cette question de la conscience animale. Et en essayant de distinguer quand même un petit peu les choses, il y a certainement des architectures fondamentales qui nous permettent de partager les informations, qui est une des bases de la conscience chez d'autres espèces que la nôtre. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, la théorie de l'esprit, la capacité de se représenter l'esprit des autres, elle est très développée dans l'espèce humaine, beaucoup moins, voire pas du tout, dans d'autres espèces animales.
Donc, ce serait là notre singularité.
C'est l'une de nos singularités, très probablement. Et donc, quand Rilke se projette dans la tête du tigre, je pense que c'est une activité humaine, mais il n'est pas clair du tout que le tigre, lui, est une propre représentation de lui-même.
Je ne sais pas si vous vous êtes projeté en parlant comme cela, Stanislas Dehaene, dans la tête de Jackie Durand, qui vient de s'asseoir à la table. Bonjour, Jackie.
Bonjour, Caroline.
Jackie Durand. De Libération pour les mitonnages. C'est tout de suite. Et je crois, Jackie, que vous allez nous parler ce matin de cuisine et de migration.
Oui, Caroline. On s'est posé la question, que reste-t-il quand on a tout perdu, quand on est loin de sa terre natale? En fait, la question, elle est venue en plein jour, gras de Noël et de Nouvel An. On dévorait les reportages dans Libé de notre consoeur Kim Hulot-Guyot. Elle embarquait sur l'Aquarius, le bateau qui vient en aide aux migrants au large des côtes libyennes. Durant 3 semaines, elle a partagé le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui mènent des opérations de sauvetage en mer. La nourriture, bien sûr que c'est important sur un bateau. D'ailleurs, Kim l'a très bien raconté en faisant le portrait du cuistot de l'Aquarius. Au fond, à chaque fois qu'il est question de guerre, de dictature, d'épuration ethnique, de misère, la bouffe finit toujours par résonner dans ses destins déracinés. C'est déjà bien sûr une nécessité vitale, celle du corps, mais c'est aussi une façon de se raccrocher au désir de vie. Une image, juste une. On est en décembre 2004 dans l'est du Sri Lanka. Le tsunami a fait des milliers de morts, il n'y a plus que l'eau, le ciel et la pluie toujours. Et pourtant, un matin à l'aube, j'entends une rafale de bruit sec, vous savez, un peu comme le bruit d'un bec d'oiseau sur un arbre. En fait, c'est un groupe de femmes qui prépare un curry de légumes sur un feu de bois mouillé. À défaut de couteau, elles coupent de grosses courges avec des cailloux tranchants. C'est ça la transmission de la vie. Un feu qui fume, qui pique les yeux, 3 fois rien, qui mijote dans une marmite cabossée. Et puis la bouffe, ça permet comme ça de faire partager des goûts, des recettes, des plats mangés ensemble. Alors ce matin, on est venu avec un beau livre à la couleur jaune. Ça s'appelle « Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs ». Ce sont 15 femmes qui ont ouvert leur cuisine pour faire partager le plat auquel elles tiennent, sous la plume de l'écrivain Alexis Jenny. C'est publié aux éditions Albin Michel.
Et vous avez choisi de nous parler des feuilles de vigne farcies d'une jeune femme originaire d'Irak.
Elle s'appelle Sondes, elle est irakienne, chrétienne et kurde. Dans une autre vie, elle habitait Bagdad. Elle a tout connu, en fait, de l'Irak en guerre depuis une éternité. La dictature, la terreur, son père qui a été tué dans la rue devant sa porte d'un coup de pistolet. Sondes est arrivée en France il y a un peu plus de 2 ans avec son mari et leurs enfants. De l'Irak, elle cuisine un plat que l'on trouve, en fait, dans tout l'Orient. Les dolmas, qui sont des légumes farcis, c'est sa grand-mère qui lui a appris cette recette à base d'aubergines, de courgettes, d'oignons, de feuilles de vigne, qu'on sert avec de la menthe, de la coriandre, du persil et du pain. Femme d'ici, cuisine d'ailleurs, c'est en fait le fruit d'une belle aventure, humble, généreuse, celle de l'association VRAC, qui s'est donnée pour objectif de vendre à prix coûtant des produits bio et de qualité dans des quartiers populaires. Elle a commencé par la banlieue lyonnaise et fait désormais des petits à Strasbourg, Bordeaux et bientôt Toulouse. Chez VRAC, on adhère pour 1 euro, passe commande une fois par mois. les adhérents se chargent de la distribution et on peut acheter comme ça de la farine à 80 centimes le kilo, de l'huile d'olive à 5,80 € le litre. C'est à prix modique et ça fait du lien social. VRAC va d'ailleurs organiser un atelier de cuisine avec les jeunes de deux collèges de Vénissieux ce printemps. Vous le voyez, il suffit de pas grand-chose pour faire partager un peu de soi par-delà les frontières, les mers, la diversité des cultures. L'autre jour, on était à Libé, il faisait gris, on regardait dehors avec notre ami Ramsès, et lui nous a parlé du borsgun. Vous connaissez le borsgun ? En fait, c'est un couscous sucré, salé, c'est un mélange de fruits secs et de viande. C'est un plat typique de la région du Kef en Tunisie, et on salive déjà à l'idée de se mettre au fourneau pour préparer notre premier borsgun. Migration, appropriation, échange.
Merci Jacques Durand pour votre chronique. Il est 8h56, j'ai envie de demander à Stanislas Dehaene s'il a eu envie de dire quelque chose en écoutant cette chronique ou en regardant faire Jacques Durand.
Ça m'a fait penser effectivement à quel point la main, le geste sont importants aussi dans l'épanouissement de l'enfant. Hein. Et on parle beaucoup...
C'est en regardant Jacques Durand.
Ben oui, parce qu'on parlait de la cuisine, de la manière de transmettre. Et bien sûr qu'il y a une transmission implicite ou d'ailleurs explicite quand on apprend un enfant à faire la cuisine et qu'on lui transmet les valeurs qu'il a pu avoir dans une société. Et il y a des systèmes éducatifs qui font de ces gestes des choses importantes. Je pense en particulier aux écoles Montessori. C'est vraiment un sujet intéressant de savoir pourquoi ces écoles Montessori arrivent à développer l'épanouissement des enfants. Mais l'un des facteurs, c'est que les enfants sont amenés à faire ce qu'ils appellent des travaux. C'est des petits travaux, par exemple nettoyer sa table avec l'éponge. Et tout est systématisé pour que, en fait, on soit déjà en train de commencer à apprendre à écrire. Vous voyez, parce qu'on éponge la table, mais systématiquement, de la gauche vers la droite, du haut en bas. Donc je pense que cette intelligence de la main, du geste, c'est aussi quelque chose auquel il faut continuer de penser pour notre école.
Jackie ?
Les cuisiniers sont souvent extrêmement bavards et volubiles sur leurs gestes, sur leurs mains. Ils ont quelquefois du mal à mettre en mots leur travail, mais sur la main, souvent, ils sont assez expressifs.
Qu'est-ce qu'on fait quand on se cogne la tête, comme Jackie Durand, quand on a dit un mot qu'on ne voulait pas dire ? Allez, on va terminer en musique avec votre choix musical. Très beau choix musical, la voix d'Andreas Scholl chantant une cantate de Bach. Votre demande, Stanislas Dehaene, était très précise. Hein, la cantate Herba me dire de, je ne parle pas allemand, pardon, par Andreas Scholl et le Collegium de Gent chez Harmonia Mundi.
Puisque j'en ai écouté une vingtaine de versions avant de choisir celle-là. J'adore cette musique. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais mes cheveux se dressent sur la tête.
J'en ai encore quelques-uns.
Quand j'écoute cette musique, c'est ce qu'on appelle le frisson musical. Et je voulais choisir cette musique parce que ça montre l'extraordinaire pouvoir de la musique sur notre cerveau dans énormément de domaines. Domaine émotionnel, on sait que la musique libère de la dopamine dans notre cerveau, et notamment dans ces moments de frisson musical, au même titre que la nourriture dont on parlait tout à l'heure, ou le sexe, ou les drogues. Et puis la musique évoque une grammaire, il y a une grammaire musicale, j'ai parlé dans mon cours l'an dernier et dans mes livres aussi, et donc par le biais de la musique on est déjà en train en quelque sorte d'entraîner notre cerveau, le langage de notre cerveau.
Donc on retiendra plus de jeux, JEU, à l'école, plus de musique, de quoi retenir l'attention des élèves et leur redonner
plus de plaisir,
plus de désir d'apprendre. Merci beaucoup Stanislas Dehaene d'être venu dans ces matins du samedi.